friction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Bonsoir, bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue sur les ondes de Radio Air Libre qui diffuse ce soir l'émission Des livres pour lire. Je rappelle que Des livres pour lire est une émission mise en onde par l'ASBL Scriptalinéa et qu'elle s'attache en particulier au parcours des différents collectifs d'écrits initiés par cette association justement et notamment aux expériences de femmes et d'hommes, des écrivantes et des écrivains qui sont membres de ces collectifs d'écrits. Alors ce soir, nous allons plonger au cœur des collectifs pour aborder une question fondamentale qui les traverse presque tous, à savoir la question de l'articulation entre d'un côté la dimension intime et confidentielle et d'autre part la nécessité de s'ouvrir au public, voire à la société. Car comme vous le savez probablement, dans le cadre d'un collectif, écrire est un acte citoyen, ce qui suppose que les écrivains et les écrivantes véhiculent un message ou plusieurs messages à destination d'un public large. Nous allons y revenir probablement un peu plus tard. Alors, pour aborder cette question, nous avons reçu des écrivantes appartenant à différents collectifs d'écrit. Et donc, j'aurai le plaisir, un immense plaisir, d'animer l'émission de ce soir en si bonne compagnie. Je suis Fatia Idrissi du collectif des Encres d'Elle et donc je vais faire le tour de table. À côté de moi, Kaitana Carion, qui est membre de plusieurs collectifs d'écrits, à savoir les Allumés de la Plume, des Encres d'Elle et le collectif d'écrits d'Anderlecht. Sylvie Van Moll, qui est membre du collectif La Ligne 10. Jennifer Rodriguez Anta, qui est membre du collectif Les Allumés de la Plume, ainsi que Tamara Frunza. Et pour finir, Isabelle De Vrindt, qui est également active au niveau de plusieurs collectifs, à savoir La Ligne 10, Balade en forêt, De la diversité à la créativité et Les Plumes colorées. Alors, pour commencer, je vous remercie d'être présente parmi nous. C'est un plaisir de vous revoir. Et alors, parlant écriture, nous écrivons des fois sur soi, pour soi-même. Il était une fois ainsi le journal intime. Cette écriture qui n'ambitionne pas au début de partager avec un public, qui n'a d'autres enjeux que de mettre à plat son expérience, de prendre de la distance avec un vécu ou tout simplement d'extérioriser des émotions et des ressentis. Mais des fois, nous écrivons pour partager avec un public. Partager une réflexion, une vision, un regard ou un sentiment. Mais des fois, on écrit aussi pour interroger la réalité sociale, pour susciter des questionnements chez un public déterminé, pour dire sa critique ou faire entendre sa voix. Et donc, l'écriture au sein des collectifs, à mon avis, s'inscrit dans toutes ces logiques. Elle ne s'exclut pas mutuellement, mais en tout cas, elle s'imbrique. Et c'est ce qui fait, selon moi, la richesse de cette expérience d'écrire dans le cadre des collectifs d'écrits initiés par Scriptalinéa. Alors, pour commencer, mesdames, je voudrais que vous nous dites comment vous vous êtes inscrits dans le cadre des collectifs d'écrits et surtout si vous aviez conscience dès le départ de cette dimension d'ouverture sur le public et sur la société.
Oui, moi j'en avais conscience, oui, de... Donc là, c'est Jennifer ici, oui, Jennifer Rodriguez-Anta, oui. J'avais conscience en effet qu'il y avait une ouverture vers le public parce que je savais qu'il y avait des représentations publiques. Mm-hmm. Donc, et je dirais que c'était aussi un peu le but, quoi. Non seulement d'écrire, enfin d'être avec d'autres personnes pour écrire ou en tout cas pour lire ce que les autres ont écrit et puis le partager publiquement.
C'est ça. Alors voilà, moi je suis Cayetana et moi au tout début j'étais pas très consciente en fait de ces dimensions publiques puisque moi j'avais donc j'étais intéressée de rejoindre un groupe d'écriture surtout pour le lien avec les autres, des gens différents de moi que j'aurais pas pu rencontrer autrement mais je ne savais pas en fait d'abord que il s'agissait d'écrire autour d'un thème de société Et je ne savais pas non plus qu'il y avait une présentation publique à la fin. Mais voilà, quand j'ai appris ça, donc c'était vraiment sur le vif, au cours de ma participation en collectif, que je me suis rendu compte, et ça ne m'a pas du tout posé problème. Je trouve d'ailleurs que tout écrit, que ce soit la poésie, du roman, du récit court, expérimental ou pas, il y a toujours quelque chose à dire, et c'est toujours quelque chose en rapport avec la société, directement ou indirectement, mais voilà. Je crois que voilà, l'écriture est une expression, c'est une forme aussi de se livrer et de communiquer vers l'extérieur des choses qu'on observe et qui nous concernent soi-même, mais aussi les autres.
Tout à fait. Voilà.
Mm-hmm. Ben moi, je suis Sylvie, donc je rejoins Cayetana, parce qu'effectivement, je trouve que l'écriture, c'est déjà aller vers les autres, c'est déjà aller vers quelqu'un. Moi, je n'en étais pas consciente non plus de cette dimension publique, puisque à la base, je ne pense pas que ça avait été pensé comme ça, le collectif d'écrit. Il n'y avait pas de lecture publique. Il y avait uniquement, je pense, au début, les tests qui auraient dû être déposés en ligne. Je pense qu'il n'y avait même pas de compilation qui était prévue. Et donc, je suis une des toutes premières participantes au tout premier collectif, enfin le deuxième, mais qui a été créé 2 semaines après le CAP. Et donc, de toute façon, on va vers le public. Mm-hmm. Quand on écrit et qu'on fait lire, il y a un don vers le public.
Isabelle,
je vais évidemment un petit peu réagir puisque je suis à la base finalement de ce projet des collectifs d'écrit. Et bien pour contredire Sylvie qui nous accompagne effectivement depuis le début, c'est vrai que cette présentation publique, cette ouverture en tout cas sur l'extérieur était vraiment envisagé d'emblée. Et donc, c'était l'objectif de créer des collectifs d'écrits pour aider les écrivains à prendre place dans l'espace public. Alors, ce qui est vrai, c'est que de quelle manière ? On avait pensé, en tout cas, à minima, à une mise en ligne d'un PDF, tout simple. Maintenant, on a eu des opportunités puisqu'on avait une graphiste parmi nous dans notre collectif, hein, Sylvie, et qui a proposé de mettre ses talents au service du collectif et de façon à faire vraiment une production qui soit vraiment mise en page et qui soit pensée comme un livre. Et puis, finalement, on a eu une opportunité de aussi imprimer cette publication-là. Donc, cet élément-là d'impression n'était pas pensé au départ parce qu'on se disait on va faire avec les moyens du bord. Et alors, la présentation publique, elle était effectivement pensée comme idéale, mais elle est toujours sujette à la décision du collectif. Et donc, c'est vrai que peut-être de cette manière-là, si on démarre un parcours voilà, à partir de rien, puisque c'était le cas de Sylvie au départ, ben, on allait voir si on allait effectivement avoir envie en collectif de prendre cette place physiquement dans un espace. Et finalement, ça a été le cas, puisque on a présenté la première compilation à l'endroit où a démarré même le collectif, le parcours d'écriture, puisque c'était la Maison du Livre de Saint-Gilles. Mais donc, en fait, voilà, c'était vraiment l'objectif, c'est de faire politique par l'écriture. Et donc, vraiment, cette ouverture, elle est inscrite dans le projet des collectifs d'écrit.
À ce sujet, je peux ajouter quelques mots aussi. Bon, cette ouverture, c'est bénéfique pour tous les écrivains dans le groupe. Ça donne beaucoup plus de courage, beaucoup plus d'espoir de s'affirmer en même temps et de communiquer avec l'extérieur. Hein, c'est ça le but. Et voir le partage, les résultats de nos travaux, je trouve que c'est magnifique. C'est un travail... C'est une belle invention pour monter dans la hiérarchie littéraire.
Merci, voilà. Tamara. Merci. Et alors, il y avait donc l'envie de partage était là, si j'ai bien entendu.
Ah bah, toutes. Pour moi, en tout cas, d'office, à partir du moment où je fais lire, il y a un partage. Je n'écris pas un journal intime.
Tout à fait.
C'est, voilà. pour être lu.
Et donc le fait de, quand vous avez pris conscience qu'il y a cette ouverture vers le public, qu'il y aura une lecture publique et que finalement on écrit pour être lu par un public large, est-ce que ça a modifié quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des ajustements, des changements dans la façon d'écrire? Quelle stratégie vous avez mis en place, s'il y en a?
Oui, non, c'est vrai, c'est une bonne question parce que... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est vrai qu'il y a un partage, etc. Après, Sylvie, quand tu dis que ce n'est pas un journal intime que tu écris, je suis d'accord, mais c'est quand même assez intime aussi, non? Tu vois ce que...
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'un journal intime,
oui.
L'objet tel quel,
on le garde pour soi.
On le garde pour soi,
oui,
c'est ça que je veux
oui,
dire.
Oui, d'accord, ok. J'ai un journal aujourd'hui, c'était une bonne journée. Non.
Je crois, le mais je comprends. Pas ça, tu vas écrire.
Non, mais c'est vrai que moi, parfois, j'ai un peu plus de mal, par contre, en réalité, pour deux raisons. D'écrire et de le partager à un public. Je dirais qu'en groupe et au sein du collectif, j'ai pas de soucis. Par contre, après, quand ça va au public, ouais, quand même. Mm-hmm. Parce que d'une part, c'est assez intime. Mm-hmm. Et aussi, parfois, parce que je pense que je suis un peu en colère, en fait. Je suis quelqu'un d'un peu en colère, et si j'écrivais vraiment ce qui me passe par la tête, je pense que je choquerais beaucoup de gens, peut-être. Mm-hmm. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas vraiment dire, ou... Enfin, je ne sais pas. En fait, moi, je ne me sens pas toujours super à l'aise avec ça, par rapport au public, en tout cas. Et puis après, l'assumer, peut-être. Tu peux toujours écrire quelque chose, à un moment donné, te sentir comme ça, et puis 2-3 ans après, ne pas penser du tout ce que tu pensais il y a 2-3 ans, et puis il y a quand même une trace, tu vois, comme ça, mais t'as quand même écrit quelque chose comme ça. Donc, il y a ça. Et puis, parfois aussi, je pense qu'on peut écrire de la fiction ou imaginer, mais parfois, c'est pas seulement intime, enfin, ça reste toujours de l'intime, même si on écrit les idées de quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça,
oui, tu veux dire qu'il y a une part de soi dans ce qu'on écrit, quel que soit l'objet ou le style d'écriture.
Notre interprétation, oui. En tout cas, oui, tu vois, maintenant, même si, imaginons que je devais écrire sur un personnage qui est l'opposé de moi, je dirais un jeune homme de 20 ans, par exemple, tu vois, que j'imaginerais toujours, c'est toujours de l'imagination, je peux quand même avoir accès peut-être à des... je ne sais pas, une certaine sensibilité, ou imaginer que c'est une certaine sensibilité, mais qui ne m'appartient pas. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais parfois les gens peuvent tout à fait se dire « Ah, tu as écrit ça, alors c'est toi, en fait, c'est ton intimité à toi et tout, alors que peut-être pas du tout.
» Oui, tout à fait.
Vous voyez ce que... Voilà.
Kaitana ?
Oui, donc, effectivement, on donne un peu de soi. Maintenant, moi, je fais l'expérience aussi de donner un peu de moi, mais à travers... des couches de fiction. le but n'est pas de me cacher du tout, parce qu'il y a toujours la voix de l'auteur, de l'écrivain qui est derrière. Mais personnellement, moi, je ne suis pas du tout prête, ni d'ailleurs la volonté de me livrer moi de manière de me mettre à nu. Voilà. Donc, moi, j'aime bien la fiction pour ça. Maintenant, je suis aussi assez consciente qu'il y a des choses qui pourraient choquer. Et j'en ai même fait l'expérience une fois dans une des éditions du CAP. C'était, je ne sais plus pour quel parcours, mais donc dans notre pratique de retour en fait sur les écrits des uns et des autres, toujours bienveillant. Hein, donc il n'était pas question moi que je sois choquée ou touchée, mais quand même on m'avait dit ah mais ça ce que tu écris c'est un peu trash. Alors ça me permet de donner la mesure aussi de jusqu'où on va et qu'est-ce qui est finalement acceptable spontanément. Après, peut-être qu'après plusieurs lectures ou après discussion, les gens se disent bah oui, finalement, c'est pas si mal la façon dont tu exprimes ça, mais ça n'empêche que la première chose, c'est de surprendre. Alors après, est-ce que c'est pas le but? Est-ce que le but n'est pas de choquer parfois aussi à travers l'écriture? Donc, ça dépend du but qu'on poursuit. Moi, personnellement, j'ai pas spécialement envie de choquer, mais j'aimerais bien pouvoir interpeller ou en tout cas remuer quelque chose. Après, chacun ses sujets à interprétation personnelle.
Mais disons qu'après, quand on choque, je me permets, quand on choque, c'est l'assumer.
Oui.
La réaction que tu as provoquée.
Oui, moi, ça me fait penser à des écrits, enfin, à plusieurs reprises dans le collectif de la diversité et la créativité. Il y a notamment plusieurs textes qu'a écrit Apolline Malvé, et qui sont vraiment... une façon de dire les choses, mais de manière très franche et de prendre vraiment un parti très personnel finalement, enfin en tout cas très marqué. Et ce qui est quand même intéressant à partir du moment où effectivement on ose le faire et on assume, c'est que effectivement ça bouscule, ça provoque des réflexions chez les lecteurs ou chez les auditeurs, puisqu'on fait des présentations publiques. Et là, on perçoit vraiment les interpellations, les réactions en fait, du public. Et en général, c'est plutôt effectivement reçu comme quelque chose de positif, de dire, tiens, voilà, tu as osé écrire ces mots-là et ça fait écho, mmh. ou alors ça me fait réfléchir. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui est important, c'est de faire la distinction entre ce qui est écrit et la personne qui l'a écrit, oui. dans le sens où voilà, le jeu du texte n'est pas forcément oui. Le jeu de l'auteur. Voilà. Moi aussi, j'ai un peu tendance à écrire de la fiction pour... voilà, pour exprimer toute une série de choses. Je trouve ça intéressant, mais quand effectivement je suis amenée à être plus personnelle, on va dire, je vais plutôt passer à la poésie. Et là, pour l'instant, dans ce collectif de la diversité à la créativité, on a choisi le thème de l'amour. Alors justement, on est le 14 février. voilà. Mais on parle de différents types d'amour, de l'amitié aussi. Et c'est vrai que ce qui me vient, c'est vraiment des choses très personnelles. Mm-hmm. Alors après, se pose vraiment la question de jusqu'où je vais. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, voilà, je vais rendre public une relation qui est vraiment de l'ordre de l'intime, mm-hmm. et qui est aussi... implique ou engage d'autres personnes de mon entourage. Donc oui. voilà, qu'est-ce que ça peut leur faire? Est-ce que je suis prête aussi à assumer ça? Ça, mm-hmm. c'est vraiment une question aussi très intime finalement.
Mm-hmm. Mais oui. moi, je trouve qu'en fait, c'est justement cette liberté-là que permet l'auteur. C'est que ce soit de la fiction ou que ce soit fiction, réalité, je pense que justement, on a cette chance de pouvoir dire les choses, de pouvoir les mettre à plat. Après, justement, le public, on peut discuter avec lui de ce qui a été écrit, de ce qui a été dit, mmh. et on peut avoir cet échange. Mmh. Et je pense que c'est dommage de se mettre des freins et de se dire, ben non, ça, je ne vais pas l'écrire parce que je risque de choquer. Mais il y a la possibilité, après, de discuter avec les personnes qui vont vous entendre.
Oui, mais après, il y a le truc de 2-3 ans après.
Mais oui, mais alors tu dis plus rien.
Non,
tu
vois.
Non, c'est dommage.
Sais. Mais je vais peut-être vous choquer aussi, mais parfois, enfin, j'espère pas, mais est-ce que vous ne pensez pas parfois que le fait d'écrire, ou bien l'art en général, l'expression artistique, on va dire que l'écriture, mm-hmm. c'est aussi l'expression artistique, n'est pas une forme d'hystérie, en fait.
C'est-à-dire.
Je ne sais pas si vous voyez ce truc de... moi, j'ai déjà lu des choses de personnes, pas au cap, hein, tu vois, mais à l'extérieur, qui étaient super intimes, quoi, tu vois. Et les personnes disent, non, en fait, joker, je te dis pas si c'est moi ou pas. Mais ça paraissait quand même assez évident. Et c'est, même si c'est super bien écrit et que c'est super chouette et tout, il y a quelque chose d'un peu, de, tu vois, de, je ne sais pas si vous voyez, d'exposer mm-hmm. comme ça son intimité, quoi. Mm-hmm.
Et toi, ça te...
Parce Est-ce que ça moi, dérange voilà. de recevoir ce qui est exposé ouais. de manière intime?
Pas du tout. Oui. Non, pas du tout. Mmh. Je pense que non, je pense merci. Enfin, je crois que je suis assez oui. ouverte, mmh. en fait. Donc, moi, ça ne me dérange pas, mais j'ai juste un moment de recul et de me dire...
Parce que dans le collectif des Encres d'Elle, justement, on a le premier parcours qui a eu lieu l'année passée, c'est inscrit autour du thème des émotions. Mmh. Et il y a un peu comme l'amour, c'est vraiment un sujet assez vaste et qui s'articule de façon très très différente selon les personnes qui l'expriment, quoi. Et il y avait des textes quand même assez personnels, assez touchants, où effectivement les gens livrent même un petit bout de leur vie, mmh. tout mmh. simplement. Et c'était très courageux, parce que je crois pas que ce soit évident de le faire. Mmh. Et finalement, je pense que ça tient aussi à la personnalité de chacun. Moi, j'aime bien la fiction parce que c'est pas seulement une façon pour moi peut-être de m'exposer autrement, mais c'est aussi qu'est-ce que c'est la fiction. Donc pour moi, le fait de pouvoir partager d'autres mondes, ça fait partie aussi de mes questionnements. Il n'y a pas que le monde rationnel, visuel, de la réalité, etc. Il y a aussi d'autres choses, et moi j'ai envie de dire ça aussi. Après, qu'on le perçoive ou pas, ça c'est une autre question, mais oui, ça fait partie de ma démarche. Donc ça, c'est voulu en fait. Pour d'autres personnes, c'est important de dire tel quel, tel qu'on le voit, tel qu'on le ressent. Et c'est très fort parce qu'on peut se reconnaître assez rapidement. Mais voilà, c'est aussi un parti pris. Et je pense aussi que voilà, quand c'est assumé, c'est super. Et c'est un petit peu ce qu'on avait eu à ce parcours-là.
Tout à fait.
Et c'était, très, c'était très touchant. Et ça avait cette valeur-là d'avoir touché au cœur, je crois, de tout le public qui était là, qui a écouté cette présentation.
Mais en tout cas, je pense qu'il y a certains sujets qui invitent à garder une certaine distance, et il y a d'autres où la distance est difficile à maintenir. Par exemple, l'amour, les émotions, ça invite d'office au dévoilement, un certain niveau de dévoilement en tout cas, que chacune et chacun va gérer selon la question de qu'est-ce que j'assume, qu'est-ce que je n'assume pas, qu'est-ce que je suis prêt à dévoiler et qu'est-ce que je suis prêt à garder pour moi. Donc voilà. Et donc, si je me permets de résumer un peu, donc chacun s'y prend à sa manière, soit en passant par la poésie, la fiction. Moi personnellement, j'avais inventé un personnage pour voilà pour mettre plein de mes idées sur ces épaules. Et pourtant, les gens font tout de suite le lien, voilà. Voilà. Mais après, le personnage aussi, j'ai remarqué que le personnage m'a aussi entraîné aussi dans une autre logique qui n'était pas la mienne.
Clairement.
Du coup, je ne me suis plus au jeu et j'ai poursuivi. Donc, les idées de départ étaient les miennes, mais la suite n'était pas mienne. Et donc, c'est vrai qu'en discutant avec le public, on va entrer dans ces détails et ça fait aussi des échanges très riches et très intéressants. Voilà. Et donc, tu as anticipé, Jennifer, en abordant la question de dire et ne pas dire. Je dis quoi ? On dit quoi autrement ? Et qu'est-ce qu'on ne dit pas ? Est-ce que c'est des niveaux de dévoilement ? Est-ce qu'on peut appeler ça dévoilement ou partage ? Parce que le positionnement va changer selon quel mot on va mettre dessus aussi.
Ça, c'est vrai aussi. Et c'est pour ça quand même que moi, je parlais d'hystérie, mais c'était un peu comme ça. Parce que je pense que le travail d'écriture, c'est un vrai travail. Quoi. Il y a des gens qui écrivent des textes et on sent que ça a été réfléchi et bien pensé et bien agencé. Et donc, c'est un vrai travail. Après, moi, je dirais que je serais plutôt... pour moi, en tout cas, ce serait plutôt que je ne serais pas très politiquement correcte, je pense. C'est plutôt ça. Et que parfois, je me dis, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de... Tu vois, même si c'est un peu provocateur, même pas méchant, en fait, mais que ce soit un peu pas politiquement correct, on va dire. Et je me dis, alors là, ça devient de la provocation. Et franchement, la provocation est-elle utile, tu vois ? Voilà, c'est tout. Enfin, c'est un peu comme ça.
Ce sont tes questions, oui. Ça mérite peut-être...
Je rejoindrais quand même un peu Sylvie, par rapport à ce que tu dis, parce que c'est... Enfin, le politiquement correct, c'est peut-être aussi une façon de cadenasser la parole. Oui. Voilà, je crois que c'est important de saisir la liberté qu'on a de dire, de se positionner, évidemment dans un certain cadre, puisque les collectifs d'écrit s'inscrivent quand même dans un cadre, dans une charte, et on va en tout cas respecter la dignité humaine et ne pas inciter à la haine, notamment.
Voilà. Mais tu ne penses pas que parfois, des textes, même si le but n'est pas celui d'inciter à la haine, ça dépend aussi toujours du lecteur, quoi, tu vois ? Je sais pas, c'est une question.
Comment le lecteur le perçoit,
tu vois ?
Mais disons que ce que moi je vois, pour un peu sortir de nous en tant qu'écrivains, c'est que on est en pleine période de la foire du livre, là pour l'instant, il y a toute une série de livres qui s'écrivent par des auteurs qui sont des sujets, effectivement, et qui vont certainement mettre de leur trip dans ce qu'ils écrivent et arriver effectivement à une publication. Mais j'ai l'impression que on ne se pose pas la question, en fait. En tant que lecteur, en tant que lecteur, on ne va pas tellement se poser la question de « tiens, c'est qui a écrit ça et pourquoi ?» et « ah oui, je le reconnais dans sa vie ». Ce qui est effectivement, personnellement, ce que j'ai toujours trouvais assez déplaisant, c'est que quand j'écrivais, par exemple, des textes qui pouvaient être des fictions, donc des proches, alors, hein, tirent mm-hmm. vraiment des conclusions c'est sur ça. Ce que j'ai écrit, mm-hmm. alors que c'est pas du tout moi mm-hmm. et c'est pas du tout mon intention. Mais là, c'est tout un travail, je crois, de pédagogie, finalement, à réaliser avec les personnes en question, en disant, voilà, écoutez, laissez ma liberté d'expression créatrice, mm-hmm. et ce que j'ai écrit là, ben, c'est sûr que je l'ai écrit moi, et je l'ai écrit parce que ça me touche, mais c'est pas forcément moi non plus.
Oui, c'est ça.
Donc, mm-hmm. Voilà, c'est arrivé, effectivement, finalement, mm-hmm. en tant que sujet, alors là, à s'émanciper de son entourage.
C'est vrai, tu as raison. Non, mais c'est juste ce que tu dis, clairement.
C'est surtout par rapport à l'entourage, je pense qu'on se pose des questions, et non pas vis-à-vis du public plus distant de nous.
Oui, et puis de toute façon, on peut pas anticiper ce que le public oui. va recevoir. Chacun va le recevoir différemment, le mm-hmm. texte.
Mm-hmm. Oui, oui, donc clairement.
Si,
ouais.
si on commence à anticiper, on est encore ah ben une non, fois, on écrit plus.
On se pose des limites, tout à fait. Mais merci Isabelle d'avoir introduit la question suivante, celle de la charte. Non, je voulais savoir, est-ce que... on sait que chaque collectif construit sa charte tout au début, et la charte, elle garantit le bon fonctionnement et les bonnes relations entre les individus. Et donc, je voulais savoir si la charte a contribué quelque part à... En fait, en quoi a-t-elle contribué à nous rassurer, à gérer cet espace d'intime, de personnel et cette vision sur le public?
c'est déjà un temps qu'on consacre, donc chaque membre de collectif, à émettre ce qu'il souhaite ou ne souhaite pas en termes de dynamique de groupe. Donc, mmh. qu'est-ce qu'on veut pour se sentir bien? Donc, chacun a le droit, ou chacune a le droit de dire, voilà, moi, j'aime bien ça, moi, j'ai besoin de ça. Donc, c'est vraiment lister les besoins du groupe pour qu'on puisse... avoir un maximum de liberté, donc ne pas se museler finalement pendant ce processus de création avant la publication, donc le faire assez ouvertement, librement et dans le respect des uns et des autres. Mmh. Et donc pour moi, ça c'était très chouette aussi parce que contrairement à d'autres espaces, et je pense aux espaces professionnels notamment, où on est amené parfois à travailler en équipe, mais on se sent pas toujours à l'aise parce qu'il y a toujours « Ah, mais machin va penser que » ou « truc va réagir » ou « ça va être systématiquement mis sur le côté ». Enfin, l'idée que j'ai va être toujours mise sur le côté ou on aura un préjugé. Enfin, il y a 36 000 raisons qui nous insécurisent et qui font que parfois, voilà, il y a des moments dans la vie professionnelle qui nous empêchent en fait d'être créatifs. Or, dans les collectifs, moi, je crois, en tout cas, moi, jusqu'à présent, j'ai jamais fait l'expérience... de moments où je ne me sentais pas à l'aise de dire ce que je pensais, aussi bien dans nos échanges par rapport à une thématique donnée que dans la façon dont j'écris. Mm-hmm. Moi, s'il y a des choses que j'évite d'écrire ou que je veux dire d'une certaine manière et pas comme peut-être j'aurais pu, ce sont des choix que moi je fais, que ce soit pour des raisons esthétiques, pour des raisons personnelles qui m'incombent à moi, mais qui n'ont rien à voir. Ce n'est pas le groupe qui va m'empêcher d'écrire ça. Et donc, du coup, la charte, pour moi, elle est très vertueuse parce qu'elle permet non seulement l'entente, je dirais, quotidienne dans un premier niveau, mais c'est aussi la libération que ça suppose pour chacun et la liberté de pouvoir s'exprimer vraiment à sa guise, quoi. Et tout de dire, voilà, moi, je suis d'accord avec ça, moi, sans que ce soit reçu de manière, castratrice et que ça empêche finalement l'élan créatif.
Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec Aïtana. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est une charte qui n'est pas fixe. Elle évolue de parcours en parcours et effectivement, chacun peut mettre sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est aussi très important, je trouve.
Tout à fait. Moi, je me rappelle de la clause de confidentialité qu'on avait placée dans notre charte et vraiment, elle était très sécurisante, histoire de dire que tout ce qu'on échange au moment de l'écriture ou des lectures et de relecture, donc on était amené à expliquer certaines choses, à dévoiler certaines choses. On avait cette sécurité qui nous disait que ça va rester entre nous quand même, parce que peut-être on avait besoin de nous dévoiler progressivement. Je pense que la charte contribuait à maintenir cette confidentialité en attendant qu'on soit prêt pour un autre niveau d'ouverture. Ouais. Sylvie.
Jennifer.
Pardon.
Oui, non, mais je trouve... en fait, je n'ai pas grand-chose à dire sur la charte, mais je pense que c'est... Elle me paraît normale, en fait, à partir du moment où on est en groupe, de... Voilà, de poser... ça peut pas être... C'est, enfin, comment je peux dire ça de... Oui, en fait, j'ai vraiment pas grand-chose à communiquer sur la charte. A priori, moi, je n'ai aucun souci avec elle. Je trouve qu'elle est naturelle, en fait. Voilà.
D'accord.
Pour faire fonctionner un groupe ou plusieurs groupes.
Oui, je suis d'accord. Ouais.
Voilà. Tamara
Oui, je suis de même avis avec Jennifer. La charte, c'est un vrai laboratoire interne et lequel nous avons tous besoin pour pouvoir échanger... nos idées pour pouvoir avoir un bon parcours. C'est une osmose rose et qui nous aide beaucoup, et surtout basée sur la confidentialité, le respect entre nous, en fait, pour pouvoir avancer dans nos projets.
Mmh.
Voilà.
Merci. D'accord. Alors, revenons un peu au collectif, aux dynamiques. J'avais une question par rapport à toutes ces dynamiques collectives qui ont lieu une séance après l'autre et qui sont essentielles pour l'avancement des projets, du projet en tout cas, et de nos projets en tant qu'écrivante. Et donc, est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti qu'il y a une tension entre vos singularités, vos subjectivités et cette dynamique collective, surtout cette nécessité de prendre, par exemple, les décisions de manière collégiale, et que voilà, vous avez autre chose, vous avez une autre vision des choses. Est-ce qu'il y a eu une tension à un moment ou l'autre? Si oui, comment vous l'avez gérée? Sinon, tant mieux.
En tout cas, pour ce qui concerne la ligne 10, non, il n'y a pas de tension. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a vraiment de la bienveillance, que chacun est accueilli pour ce qu'il est. Et que chaque type d'écrit est accueilli aussi pour ce qu'il est. Et moi, je n'ai pas connaissance, en tout cas au sein de mon collectif, qu'il y ait eu des tensions. Bon, évidemment, il y a des personnalités un peu plus fortes que d'autres, mais qui sont peut-être un peu plus difficiles, avec qui il est plus difficile de communiquer, mais il n'y a pas vraiment eu de tension. Ça se passe en général assez bien. Et justement, c'est la charte, quand on revient de là, elle revient parfois de temps en temps.
Ouais.
Si c'est des gens avec qui c'est plus difficile, on revient à cette charte. Et donc c'est vrai que c'est vraiment sécurisant et ça permet justement peut-être d'éviter cette tension qui pourrait arriver.
Oui, moi je suis d'accord avec Sylvie. La charte est quand même un très bel outil pour faire en sorte que voilà, on se rappelle qu'on s'est fixé des règles ensemble et justement ce sont des règles qui permettent de faire en sorte que les tensions qui pourraient avoir lieu. Je ne dis pas qu'elle s'estompe, parce que voilà, on a tous des avis très personnels sur les choses.
Recadrer,
mais en tout cas,
quoi.
On recadre et ça apaise tout le monde. Oui. On l'a décidé ensemble, c'est notre règle,
oui.
C'est pas une tierce personne qui l'a imposée.
Oui.
Et ça clarifie beaucoup de choses.
Oui, c'est vrai.
Et donc, dans ce sens-là, je trouve que voilà, la charte est quand même assez cruciale à ce niveau-là. Maintenant, je pense aussi que ce qui est intéressant... Enfin, tout dépend de ce qu'on entend par tension.
Oui, le mot est fort. Je pensais utiliser plutôt le mot tiraillement.
Voilà, parce que les tiraillements, il y en a toujours. En même temps, quand on arrive dans un collectif et qu'au bout de 2-3 rencontres, on a un peu compris le type de dynamique. Et si on continue, c'est que d'une certaine manière, on s'y retrouve. Et donc, on est prêt à accepter ces petits frottements, ces moments de divergence. Et je crois que dans Les Encres d'Elle, on a fait un peu l'expérience.
Tout à fait.
Des fortes personnalités, des femmes très engagées, mais elles tenaient fermement à leurs idées. Donc, il fallait vraiment, sans nécessairement avoir recours à la charte de manière, je dirais, ouverte, mais il fallait trouver une façon de faire en sorte que ces différentes approches ou ces différentes idées puissent se rejoindre. Donc voilà, ce n'était pas des tensions dans le sens où il y avait dichotomie, où il y avait opposition, mais c'était plutôt sur des subtilités comme ça. Et donc comment trouver justement, comment canaliser tout ça? Et je crois que voilà, ça, le groupe y a participé, je pense que l'animation joue aussi un rôle là-dedans, mais ça reste un cheminement collectif pour moi. Hein. Donc je ne crois pas que ce soit le fait d'une seule personne, mais c'est tout un cheminement.
Ouais, je suis d'accord,
c'est la confiance qu'on arrive à construire qui permet de canaliser. Voilà.
Oui.
Oui, moi je vais intervenir. Je suis assez d'accord aussi de l'importance de la confiance, et aussi de la charte comme fondement. Maintenant, les tensions ou les tiraillements viennent aussi parfois du rythme que chacun a par rapport à l'écriture. Et donc, voilà, on a un parcours d'écriture qui va être co-construit et le rythme va aussi être déterminé par les écrivains. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas tous le même rythme par rapport à l'écriture, notamment. Il peut y avoir là des tiraillements, il peut y avoir des tensions à partir du moment où on ne respecte pas la charte aussi. Et donc là, c'est tout un art quand même d'interpeller l'ensemble des membres du collectif pour réfléchir sur la manière dont on peut vraiment respecter la charte et donc affirmer cet engagement qu'on a, éventuellement en modifiant alors de nouveaux éléments de la charte. Et je pense notamment à des problèmes qu'on peut rencontrer dans une dynamique de groupe d'un collectif d'écrit par rapport à l'engagement et donc à la présence lors des rencontres des écrivains. Enfin, c'est pas la même chose, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas présent qu'on n'est pas engagé dans le collectif, mais tout ça doit être vraiment porté par l'ensemble du collectif d'écrit. Et parfois, il y a des personnes qui sont moins présentes, plus absentes et moins porteuses. Et ça, ça peut être
énergivore.
Énergivore, merci.
Oui, mais je veux juste rebondir. Effectivement, c'est vrai que ça, c'est une dimension dont, voilà, à laquelle, en tout cas, moi, que j'avais un petit peu oublié. Mais c'est vrai que l'engagement, c'est quand même vachement essentiel. Oui. D'où l'importance, c'est la dynamique du groupe qui va permettre finalement d'aplanir ces tensions. Mais je crois aussi, parce qu'il y a un partage de tâches, et quand ce partage n'est pas assumé de manière équitable, en tout cas, surtout les collectifs qui sont très autonomes, qui ne fonctionnent pas en rapport avec une association ou quoi, ça peut être très lourd, en fait, et même vécu parfois comme un peu injustifiant, pourquoi telle personne fait plus et l'autre fait moins, etc. Et ça, voilà, ça peut alourdir. Après, je trouve qu'il y a des moments aussi qui sont propices à ce que ce soit plus lourd. Il y a des moments où, voilà, ça s'allège, donc... Voilà, il y a une part d'alchimie parfois qui ne se fait pas nécessairement comme on voudrait et qui n'est pas que les gens ne le souhaitent pas, mais c'est juste, voilà, ça ne se met pas bien. Et on essaye malgré tout avec cette charte de rappeler en fait de l'engagement. Et...
Tamara. Deux petits mots aussi concernant ce tiraillement, la tension, enfin, qu'on peut le dire. Mais j'estime que, bon, c'est bien quand tout se passe très bien, qu'il n'y a pas de problème. Mais ces contraintes, moi, j'estime que ce sont parfois nécessaires pour pouvoir régler le biorhythme de notre parcours. Parce que si tout allait parfaitement, ce serait trop beau, le monde ne s'écroulera jamais. Donc, j'estime que c'est quand même bénéfique, c'est constructif, des petites contraintes... qui peuvent bien régler l'affaire, comme on dit, pas l'affaire, mais la situation en soi. Donc, c'est pour ça que... Moi, ça, c'est mon avis, en fait. C'est très, très bénéfique.
Merci beaucoup. En tout cas, chaque parcours est couronné par la publication d'une compilation. Et si je veux définir la compilation, je dirais que c'est un recueil de textes individuels qui s'imbrique pourtant autour d'une thématique choisie de commun accord et qui s'imbrique de manière cohérente. Et je trouve ça extraordinaire. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus, rapidement ?
Sur la
compilation qui inclut des textes individuels dont chacun peut-être est porteur d'un univers différent, style personnel. Et pourtant, quand on lit les compilations, elles sont magnifiques. Il y a une cohérence, il y a une homogénéité, il y a une magie, on va dire, impressionnante.
Je dirais que c'est ça qui est génial et riche, en fait. C'est les différents univers, les différentes personnalités, les différentes interprétations d'un thème. C'est ce qui fait la richesse du collectif, tout à fait, des publications, à mon sens.
Oui, mais je dirais aussi que... Il y a aussi un travail qui est fait sur l'agencement des textes au sein de la compilation par l'ensemble des participants. Et on fait en sorte, évidemment, qu'il y ait un certain équilibre dans cette compilation. On ne va pas mettre tous les textes lourds ensemble et puis après des textes plus légers, etc. etc. Et je pense que cette diversité, c'est une complémentarité. En fait, c'est ça qui... On se rend compte que toutes les différences... sont complémentaires. Et je pense que c'est ça qui fait qu'au final, une compilation, je ne sais plus le terme que tu as utilisé.
Homogène.
Est homogène, oui, tout à fait.
Oui, et la cohérence vient, l'homogénéité, malgré les différences, vient aussi du fait que le parcours de collectif assure aussi une qualité dans les textes. Donc,
oui,
les retours
tout à fait, ouais,
font que voilà, chaque écrivain, écrivante, émet une série d'appréciations par rapport à un texte lu. Après, à l'auteur ou autrice, ou auteur plutôt, de prendre ça en compte ou pas, mais ça garantit une qualité. Mmh. Et je crois que rien que ça assure déjà une certaine homogénéité, donc on n'est pas... voilà.
Oui, je voudrais juste aussi apporter le témoignage qu'il peut aussi y avoir des impacts, en fait, à travers les relectures ou bien le fait de travailler ensemble autour d'un même thème. On peut voir que, par exemple, un écrivain ou une écrivante va prendre un titre tiré d'un texte de quelqu'un d'autre. Ou alors qu'il y a des univers qui se font écho quand même étrangement. Et voilà, ça c'est intéressant aussi de voir que finalement, comme le texte s'écrit en même temps que d'autres textes, il peut être aussi imprégné des imaginaires et des univers des autres. Et alors pour terminer, en fait, il existe des expériences où on écrit des textes à plusieurs et donc où un même texte est signé de plusieurs écrivains. Et voilà, on a déjà aussi émis la volonté ou le souhait, par exemple dans la ligne 10, de faire apparaître, pourquoi pas, des personnages d'un texte à l'autre pour créer des liens. Bon, on n'y est pas encore arrivé, mais on ne désespère pas.
C'est difficile à mettre en place. Non, vas-y. C'est difficile à mettre en place parce que chacun a son rythme aussi dans l'écriture.
Ah oui, ça aussi, c'est vrai.
Et chacun s'implique différemment aussi.
Est-ce que, je ne sais pas, une légende qui court que Shakespeare, c'était un collectif aussi?
Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
En tout cas, ouais, je propose d'écouter un extrait de la lecture publique de notre collectif des Encres d'Ailes. C'est un texte écrit et lu par Shadia Fayez et qui évoque justement l'écriture, écrire. Il s'appelle d'ailleurs Écrire.
Écrire. Écrire pour rire. Écrire pour pleurer. Écrire pour se libérer. Écrire pour guérir. La plume noire embrasse la page blanche pour se confier ou pour rêver. Remuer les souvenirs ou la mémoire nourrir. La fatigue de la journée s'évapore à notre union où les idées entrent en compétition. Recoller les morceaux ou créer du nouveau. J'écoute attentivement la voix qui insiste énormément. Le sommeil s'évade, laissant place aux visiteurs inconnus, toujours le bienvenu. Je ne peux décrire le sentiment de privilège si fort, si intense, me projetant dans un monde, peu importe, abstrait ou réel. Je me laisse bercer par cette soumission, loin des yeux, loin de domination. Je ne peux sacrifier la joie de l'instant pour rien dans cette création.
Je souhaite la bienvenue aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Donc, on est sur Radio Libre, sur l'émission Des Livres pour Dire. Donc, je reviens rapidement sur certaines questions. Quand on envoie nos textes, bien sûr, on se rend compte qu'on ne se sépare aussi de nos textes. En tout cas, je l'avais vécu comme ça. Je ne sais pas pour vous. Voilà, le texte ne m'appartient plus, il est parti. Voilà.
Oui, oui, c'est effectivement, une fois qu'il est parti.
Il faut assumer.
Il faut assumer, tout à fait. Assumer, même 2-3 ans après.
Oui, mais il nous appartient. Enfin, moi, en tout cas, effectivement, j'ai l'impression de livrer quelque chose. Voilà, ouais, c'est dehors. Mais en même temps, moi, j'ai toujours mon rapport avec mon texte. Quoi. Il fait partie de moi.
Oui,
voilà.
Bien sûr.
Et donc, je n'ai pas un sentiment d'être séparée. Parfois, j'ai le sentiment que voilà, il y avait des choses que j'aurais pu écrire autrement. Mais ça, c'est le travail interminable de réécriture où il faut bien s'arrêter à un moment donné.
C'est ça.
Mais voilà, moi, mon texte, c'est toujours mon texte.
Tamara, tu peux dire ?
Oui, par rapport à la création, effectivement, la singularité y est de rigueur. J'aime bien faire ma microchirurgie dans mon cabinet. Et une fois que je suis certaine de la réussite de cette intervention, à ce moment-là, je prends le courage et je porte le flambeau, quoi. Voilà, ça, c'est mon ressenti par rapport à la création.
Et ceci dit, bravo à Tamara, parce qu'elle écrit en français, quand même. Et ce qui n'est pas sa langue maternelle.
Oui, en effet, c'est mon plus grand choix d'écrire en français. C'est comme un amour, c'est comme un deuxième mari.
Passionné,
extrêmement.
On est le 14 février.
Joyeux le cœur à écrire en français. Voilà, c'est super.
Et puis, à un moment, on doit présenter le collectif, on doit se présenter. Donc aussi, je pensais à l'articulation, encore une fois, entre l'identité du collectif et nos identités personnelles.
Et la question, c'est ?
Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Quel était le rapport entre vous quand vous vous êtes présenté et l'identité du collectif ?
Je me suis jamais vraiment posé cette question,
en fait.
Non.
Mais je crois qu'elle se pose peut-être plus au moment de la fondation d'un collectif. Nous, on l'a vécu aux encres d'elle. Évidemment, il fallait se trouver. Donc, on avait commencé. Et puis, à un moment donné, il y a une étape qui est consacrée à se trouver un nom. Et ce nom dit beaucoup sur l'identité de ce collectif en tenant compte des individualités de chaque membre.
Des attentes aussi, ouais.
Des attentes, enfin, c'est un tout. Mm-hmm. Et effectivement, comme ce collectif, c'était des fortes têtes, c'était pas évident de trouver un nom qui satisfasse tout le monde et où tout le monde s'y retrouve. Donc, il y en avait qui étaient traumatisés par les encriers de l'école, d'autres qui trouvaient que, je sais pas moi, les ailes, c'était pas... Enfin, j'en sais rien, mais je me rappelle qu'il y avait cette histoire d'encrier qui posait problème. Et donc, on était dans une recherche, mais qui était finalement très, très constructive. En fait, on apprenait les unes des autres. C'était assez hallucinant.
C'était très enrichissant.
Et puis finalement, on a abouti quand même à un nom. Et on était toutes satisfaites parce que ça a répondu finalement à nos attentes. C'était le plus petit commun dénominateur, mais pas dans le sens négatif, mais plutôt dans un chouette sens.
Le nom de votre collectif, Encre d'aile, ce joli.
Oui, il est beau, c'est vrai.
En tout cas, ça a pris du temps.
De l'énergie,
la peine. Mais je pense que chacun a son histoire par rapport à ça, parce que moi, dans mon souvenir, donc je ne sais pas pour Isabelle, mais moi, dans mon souvenir concernant la ligne 10, ça a été évident, en fait, le nom. Ça a été déjà en rapport au thème qui avait été choisi, qui était poésie urbaine. Et on s'est rendu compte que dans la majorité des textes, il y avait beaucoup les transports en commun qui avaient été évoqués. Et on était 10 à l'époque. On s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas la ligne 10 ? Ça a été, à mon souvenir en tout cas, une évidence. Et on n'a pas donné le nom par rapport aux personnalités qui étaient présentes. Ça a vraiment été par rapport au thème choisi et par rapport à la présence des transports en commun dans les textes.
C'est une approche possible. Et aussi parce qu'on était 10. Ouais, et donc, en fait, c'était parti d'une proposition. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on s'y est reconnus, en fait, tous. Et c'est vrai que la question du nom du collectif, elle est cruciale parce qu'effectivement, on doit s'y reconnaître chacun dans notre singularité. Alors maintenant, c'est vrai que le choix du nom peut être relié au thème qu'on a choisi. Et finalement, ça, c'est notre spécificité, finalement. C'est déjà un fondement commun qu'on a au sein du groupe. Mais ça peut être effectivement à un moment ou en tout cas une direction qu'on prend qui ne va pas dans le sens du thème. Et alors là, tout l'enjeu, c'est effectivement de se reconnaître, de trouver un nom où chacun puisse se reconnaître. Je me souviens quand même de l'élaboration du nom pour Les Allumés de la Plume. Et c'est vrai que ce n'était pas forcément évident parce qu'il y avait vraiment ce besoin
de se dire, voilà, moi, je dois quand même finalement pouvoir assumer, là aussi, le nom qu'on se choisit. Et donc, si on choisit un nom qui ne me convient pas, je ne vais pas avoir envie d'en faire partie, finalement. Donc, il y a vraiment la question qui est posée. Dans un collectif, c'est ça aussi, peut-être, qui est assez particulier, disons, c'est que à la fois, il y a un besoin de la part de chacun d'être reconnu dans sa singularité, mais il y a aussi ce besoin d'être reconnu en tant que collectif, donc dans l'aspect identique ou partagé qui est spécifique au collectif.
Oui, et puis il y a tous ceux qui rejoignent des collectifs existants.
Oui. Mais c'était mon cas, ouais, en tout cas, ils allumaient de la plume.
Mais moi aussi.
Donc, ça ne m'a pas dérangée.
Mais j'avais vu à l'époque, il y avait les Allumés de la Plume et la ligne 10. Et bien, moi, ça me parlait, les Allumés de la Plume.
Ah oui, oui, oui.
Voilà, donc c'est pour ça aussi, je me suis dit, ah tiens, je vais aller là, puisque ça. Donc, comme quoi, c'est important le nom de. Voilà. Pas que j'aime pas la ligne.
Non, mais c'est vrai que de ce que j'ai pu entendre, les gens rejoignent un groupe par rapport au nom. Ça, c'est vrai
aussi. Oui, qui leur parle, oui.
Et enfin, vient le moment de la lecture publique. Voilà. Comment vous l'avez vécu ? Est-ce qu'il y avait une appréhension avant ?
Toujours, en fait. Je pense qu'il y a toujours un stress. Parce que, et puis surtout qu'en général, les personnes sont seules sur scène à lire des textes. Après, je ne sais pas comment ça se passe pour les personnes qui lisent leurs propres textes. Moi, je pense que ce serait, ce qui ne m'est jamais arrivé d'ailleurs, mais je pense que ce serait très difficile de lire un texte que j'ai écrit. Il faudrait déjà que je l'écrive.
C'est vrai. Maintenant que tu le dis, maintenant.
Ceci dit, moi, je pense aussi que, en tout cas, en ce qui me concerne, la difficulté ou le stress, s'il y en a, c'est pas tellement moi ma capacité à lire en public parce que voilà, je me sens assez à l'aise avec ça, mais c'est plus comment on le fait ensemble, comment on met en scène en collectif. Enfin, mettre en scène, c'est peut-être un grand mot pour dire comment on lit, quoi. Et parce qu'il y a des gens, là, on n'est pas tous les mêmes face à la lecture à haute voix. Et je suis très contente qu'on ait eu à un moment donné une petite formation là-dessus parce que c'est pas évident, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde.
Oui.
Et sachant ça me stressait plus que moi-même de lire devant un public. Donc, parce que c'est aussi qu'est-ce qu'on transmet nous en tant que collectif par rapport à l'extérieur. Donc il y a un souci aussi de qualité tout en reconnaissant les singularités de chacun et de chacune. Mais il y a ce souci de qualité de ce qu'on offre de manière publique.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que la lecture publique, c'est un plus. Il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Et qu'on peut aussi décider de ne pas lire. Donc il y a des personnes dans des collectifs qui décident de ne pas lire. Ou alors de lire, mais uniquement des textes des autres.
Oui, c'est ça. Parce que finalement, qui a lu son propre texte? Enfin, c'est arrivé à tout le
monde.
Et alors, la différence entre lire son propre texte et le texte de quelqu'un d'autre?
C'est plus difficile peut-être de lire son propre texte, en tout cas pour moi. Parce qu'il y avait toujours cette idée de dévoilement aussi, donc je lis mon propre texte, alors que quand j'ai lu les textes des autres, j'étais vraiment, parce que je pense qu'il y a une distance suffisante par rapport à moi et au texte d'une autre personne qu'avec mon propre texte, mais en tout cas je l'ai vécu de cette façon.
Et si quelqu'un ne lit pas comme tu imaginais ton texte,
c'est aussi
une question délicate.
Mais voilà, aussi lâcher prise, c'est vraiment le premier mouvement vers le fait de la publication.
Bien sûr, mais c'est vrai que
ne nous appartient plus. Moi, je trouve que lire le texte d'un autre nécessite un travail supplémentaire, une nécessité d'incarner ce que l'autre a écrit quand même. Et donc, il y a tout un travail d'interprétation, d'appropriation du texte qui n'est pas forcément si évident que ça. Et puis, au niveau de la lecture de son propre texte, ça m'est arrivé de voir apparaître une émotion que je ne soupçonnais pas à un certain moment, et d'être submergée.
Donc, en lisant le texte de quelqu'un d'autre.
Non, mon propre texte.
En lisant ton propre texte.
Lire en public, c'est quelque chose qui est assez spécifique et qui peut amener comme ça des choses qui sont tout à fait inattendues. Par ailleurs, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est souvent apprécié quand même par le groupe, par le collectif. Au niveau de la mise en scène, souvent on essaye d'être tous présents sur scène. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière assez récurrente parce que là, on se soutient physiquement, vraiment, réellement, on se soutient. Et puis, il y a aussi une interaction avec le public et on sent, je trouve, l'énergie du public quand on lit sur scène.
C'est vrai.
Et donc, ça a des effets assez inattendus, surprenants. Oui.
Tout à fait. Tamara, tu voulais dire ?
C'est-à-dire, en lisant sa propre lecture, ça donne une estime de soi, un contact direct avec le public et voir ses retours, la réaction qu'on perçoit en ce moment-là, c'est des grosses émotions qui font parcourir le sentiment, l'être humain, voilà, enfin l'estime de soi, quoi. C'est ça, c'est très, moi je trouve que c'est bénéfique aussi.
Et moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu les deux expériences, c'est que parfois, je lis mes textes, parfois pas. Et quand je ne lis pas mes textes, c'est parce que je trouve qu'ils sont beaucoup trop personnels et que je ne pourrais pas. Et peut-être que justement, y aurait cette dimension trop émotionnelle que je n'ai pas spécialement envie de donner au public. Et donc, du coup, je préfère que quelqu'un d'autre le lise. Si c'est moins personnel, je peux le lire moi-même.
Alors, il nous reste 2 minutes. Je vais m'adresser directement à Isabelle. Alors, je voulais savoir, Isabelle, est-ce que le même questionnement se pose au niveau de script alinéa, cette question d'articulation entre le confidentiel et le public, et comment elle se pose au niveau de script alinéa. Je voulais aussi poser une autre question, si le temps le permet. Donc, on livre en fin de compte au public une compilation, mais après, là, on a dévoilé des choses quand même. Mais il y a beaucoup de choses invisibles, il y a un travail de fourmilière derrière, que ce soit au niveau des collectifs, au niveau de script alinéa. Donc si tu as encore le temps de nous dire ça rapidement, ça serait vraiment chouette.
Oui, on a parlé beaucoup du processus d'un parcours d'écriture qui est confidentiel, qui est un partage de textes écrits en lien avec qui on est et dans une certaine intimité. Et alors, c'est vrai que la présentation publique, c'est le moment de l'ouverture qui, je vous disais, est inscrit dans cette dynamique, dans ce processus qui va du plus intime au plus citoyen et même politique. Et donc, ça, c'est vraiment l'enjeu de script alinéa. C'est à la fois proposer un outil, on va dire, d'émancipation pour les personnes qui arrivent petit à petit à vraiment se dire à travers l'écriture et à se positionner. Et de cette manière, dire en public ou entendre son texte dit en public, ça a clairement un impact sur chacun des écrivains, chacune des écrivantes, à court, moyen ou à long terme, au niveau d'une certaine confiance en soi. Et au moment de la présentation publique, il y a souvent un sentiment de fierté collective. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est important. Et il faut rappeler cette dimension aussi horizontale de co-construction qui fait que chaque écrivain adhère vraiment à la compilation qu'il réalise. Alors après, tout l'enjeu, c'est de mettre en lien ces compilations, mettre en lien ces moments choisis par le collectif pour se dire dans l'espace public. C'est aussi un enjeu de finalement être accueilli par la société civile, faire que le public accueille les textes qui ont été préparés, qui ont été retravaillés et qui se veulent être un miroir imparfait, incomplet d'un aspect de la société. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Je citerai peut-être Nicole Aubert, qui est aussi citée dans une analyse d'éducation permanente réalisée par une association qui s'appelle Le Grain, et qui montre comment on est passé depuis le 19e siècle d'une société structurée autour d'un temps long et d'un espace court à une société structurée autour d'un espace long, c'est-à-dire on se situe à un niveau mondial avec un temps court. Et en fait, tout l'enjeu des collectifs d'écrit, c'est peut-être de retrouver ou amener peut-être un nouvel équilibre et permettre à un collectif de se déployer dans un espace local intime qui puissent après se dire dans un environnement direct et pas forcément mondial, même si le site permet effectivement cette ouverture vers cet espace long. Et le temps court, le temps immédiat qui est vraiment suscité par les nouvelles technologies, eh bien, il est d'une certaine manière allongé par le processus de l'écriture collective et de cette mise en perspective, parce que maintenant qu'on a un petit peu plus de moyens, on présente quand même au début de chaque parcours d'écriture l'ensemble du parcours d'écriture et du temps que ça va pouvoir prendre.
Merci Isabelle. En tout cas, merci pour votre présence. C'était une discussion très intéressante, très enrichissante.
Très riche, oui.
Oui, et
merci à toi.
Merci
à toi.
Ça m'a fait énormément plaisir. Voilà.
Merci.
Merci. Merci. Bonne soirée à toutes. Au revoir. Merci pour votre écoute.
Merci.
Bonne soirée à tous.
Au revoir.
Bonne soirée.
C'est-à-dire la façon dont le regard fonctionne dans la vie quotidienne.